merci. Alors, je vais effectivement tenter de ne pas perdre de vue la continuité de notre thème d'aujourd'hui, et cette continuité est bien réelle. Alors, je commencerai donc par rappeler, en effet, un passage d'un des nombreux livres de Jean-Raymond Tournou sur le général de Gaulle et sa politique, notamment sa politique algérienne, et je ne sais plus exactement en quelle année, il raconte que de Gaulle lui tend un journal, il lui dit « Avez-vous lu ce torchon ?» Alors c'est en fait un article écrit par un jeune historien, Charles-Aubert Ageron, donc dans, je crois, la page Libres Opinions du Monde, dans lequel il suggérait qu'il y avait une continuité d'inspiration entre la politique du royaume arabe de Napoléon III en Algérie et la politique gaullienne qui s'orientait depuis septembre 59, par étapes, mais à grands pas, vers l'idée d'une décolonisation de l'Algérie, en tout cas d'une conversion totale d'une politique qui, depuis 1830 ou 1834, avait fait un dogme de l'annexion de l'Algérie à la France, la souveraineté française sur l'Algérie, et brusquement, à partir du 16 septembre 59, eh bien, un mot nouveau, l'autodétermination, prend la place de la souveraineté française, et dès 1960, on voit qu'il s'agit bel et bien d'une inversion de la vapeur, si j'ose dire, qui n'allait pas d'ailleurs sans péril. Donc, je pense que cette idée d'une continuité entre la nouvelle politique gaullienne et la politique de Napoléon III n'est pas artificielle, et je pense qu'on peut démontrer en effet l'unité de notre thème d'aujourd'hui, c'est-à-dire la continuité entre les politiques des deux Napoléons, de Lyautey et de Charles de Gaulle. Alors, en simplifiant au maximum, je pense en effet que l'on peut dire que la conquête et la colonisation de l'Algérie ont souffert dès le début d'une contradiction fondamentale entre deux conceptions différentes. D'une part, la France a promis, dès la capitulation d'Alger le 5 juillet 1830, de respecter les droits, les intérêts et la religion des musulmans. Et d'autre part, la politique française est passée très vite à l'établissement d'une colonisation de peuplement sur des terres confisquées. Et surtout à partir de 1840-41 et du gouvernement du général Bugeaud. Alors, pour illustrer justement cette idée fondamentale que je n'ai pas inventée, je citerai un passage du journal des carnets de Augustin Berck, qui fut directeur des affaires musulmanes entre 1940 et 1945, et qui était aussi le père de Jacques Berck. Donc, de mémoire, Augustin Berck a écrit « La politique française souffre d'une contradiction fondamentale. D'une part, nous avons voulu coloniser, c'est-à-dire prendre les terres, et d'autre part, nous voulons civiliser. Voilà la contradiction à résoudre. » Et c'est bien là, en effet, le fond du problème, la difficulté à laquelle la France s'est heurtée pendant 132 ans. Néanmoins, il faut souligner que cette contradiction, un homme avait voulu la résoudre, donc le général puis maréchal Bugeaud, donc le principal conquérant d'Algérie, puisqu'il expliquait que la conquête qui supposait la mobilisation de moyens militaires énormes de la part de la France pour conquérir l'Algérie, cette conquête ne pourrait pas réussir durablement si la colonisation ne devait pas la suivre, parce que le peuple arabe était un peuple guerrier, extrêmement endurant, énergique, et donc on ne pourrait pas le décourager de se révolter si, justement, il n'y avait pas une colonisation française, c'est-à-dire l'implantation d'une population restant à demeure. Donc, comme faisaient les anciens Romains qui installaient leurs anciens légionnaires dans des colonies, c'est-à-dire des cités, mais aussi des territoires appropriés, pour tenir le terrain et décourager toute révolte. Or, dans un de ces textes justement fondamentaux, le général Lyautey disait « Il est bien évident que la conquête ne servirait à rien s'il n'y avait pas la colonisation ». Or, le problème, c'est si on inverse la formule, est-ce que la colonisation avait une chance de réussir? Or, quand on voit les notions démographiques dont disposait Bugeaud, on s'aperçoit qu'il était dans l'illusion totale sur ce que la France pouvait faire pour garder l'Algérie. Alors, en effet, j'ai trouvé dans, dans une thèse qui était dirigée par mon collègue Jacques Frémaux, donc la thèse de Alain Lardier, que en 1846, Bugeaud avait jugé nécessaire pour assurer le peuplement français du pays, alors donc une immigration massive de 150 000 soldats laboureurs installés en 10 ans, auxquels il faudrait ajouter 150 000 femmes et à terme leurs 600 000 enfants, soit en tout 900 000 personnes. Or, il est évident que jamais la France n'a été capable d'installer une telle masse humaine en Algérie, puisque la colonisation la plus intensive et systématique qui a été donc organisée par la Deuxième République a installé, je ne sais plus si je vais vous retrouver rapidement la citation. Donc, en 1848, près de 100 000 candidatures donc parvinrent des régions les plus touchées par la crise économique. 20 000 émigrants, dont 15 000 Parisiens, partirent pour fonder 42 villages, mais la majorité n'avait aucune expérience agricole et fut découragée par les mauvaises conditions d'accueil. 3 000 d'entre eux moururent, 7 000 rentrèrent en France et seulement 10 000 restèrent. Donc, comparer ces 10 000 aux 150 000 que Bugeaud avait nécessaire d'installer en 10 ans, vous voyez que la colonisation française de l'Algérie a toujours relevé du mythe, même s'il y a eu, bien sûr, un début de réalisation, et en particulier une mainmise sur les terres qui s'est développée considérablement, surtout à partir de la Troisième République. Donc, cette contradiction fondamentale existait bien, et cela, bien que Napoléon III ait pris position clairement à partir de 1860, donc sous l'influence de conseillers venant des militaires et des civils qu'on qualifiait à l'époque d'arabophiles et qui soutenaient que, justement, la politique française en Algérie ne pouvait pas se fonder sur la colonisation parce que la France n'avait pas d'excédent de population qu'elle pourrait déverser à travers la Méditerranée sur l'Algérie. En effet, la comparaison entre les recensements de 1846 et de 1856 a prouvé que l'accroissement naturel de la population française durant ces 10 ans avait été nul. La population française était la seule en Europe à avoir un accroissement nul, alors qu'au contraire, au XIXe siècle, l'accroissement démographique s'accroissait considérablement dans toute l'Europe, sauf en Irlande, il est vrai, à cause de la famine. Bon, donc, et c'est justement parce que ces conseillers arabophiles avaient compris cette réalité, en avaient pris acte, que il pressait l'empereur de décider clairement et de proclamer que la politique de la France en Algérie ne pouvait pas être une politique de colonisation, de peuplement, sinon d'une façon très limitée, autour des principales villes, mais une population de civilisation pour les indigènes qui a été popularisée, si on peut dire, sous le nom de politique du royaume arabe. Mais cette politique du royaume arabe a suscité l'hostilité non seulement d'une partie des militaires, mais aussi et surtout des opposants politiques en Algérie et en métropole, aussi bien les républicains que les orléanistes. Et le résultat, c'est que cette politique du royaume arabe a été désavouée dès 1869, avant même la chute de l'Empire. Et donc, ces officiers des bureaux arabes qui étaient en partie à l'origine de cette politique impériale, eh bien, ils ont été, après la chute de l'Empire et l'installation de la République, ils ont été en quelque sorte refoulés rapidement vers le Sahara, puisque l'Algérie a été prise en main par des hommes politiques faisant leur la conception qui avait été exprimée, je crois que c'était en 1868, par le journaliste libéral Prévost Paradol, la France nouvelle, c'est-à-dire que selon Prévost Paradol, l'Algérie était la dernière chance de la puissance française, parce que la France, étant déclassée en Europe et menacée de nouveau par la formation de l'Allemagne unifiée autour de la Prusse, eh bien, ne pourrait retrouver le rang démographique dont elle avait besoin que par une colonisation massive de l'Algérie. Et donc, Prévost Paradol imaginait, dans sa conclusion, que la France de l'avenir serait une France de 100 millions d'habitants solidement campés sur les deux rives de la Méditerranée. Et c'est pourquoi il ne fallait pas avoir des scrupules humanitaires exagérés envers les indigènes. Il fallait prendre toutes les terres nécessaires pour installer les colons. Et cette possibilité suffirait, d'après lui, à faire que la démographie française se redresse. Ce qui était une pure illusion, car en fait, il n'y a eu aucune amélioration de la situation démographique française avant l'établissement du Code de la famille en 1940. Bon, donc, il s'agit vraiment du problème fondamental qui a été longtemps sous-estimé. Et néanmoins, l'idée du royaume arabe, en tout cas d'une colonisation fondée sur la modernisation de la civilisation des indigènes, eh bien, elle a été transportée donc vers le Sahara, donc par ces officiers des bureaux arabes qui ont formé l'administration des quatre territoires sahariens, organisés en 1901, je crois, mais aussi donc ceux qui, comme Lyautey, ont tourné vers leur dynamisme vers l'établissement d'un protectorat français sur le Maroc. Et c'est ainsi que, en effet, les bureaux arabes ont connu une grande renaissance dans l'administration donc des tribus organisées par le général puis maréchal Lyautey. Donc il y a bel et bien une continuité, et cette continuité nous conduit ensuite à la politique gaulienne que j'ai déjà évoquée. Alors néanmoins, à ce point, il faut quand même prendre acte d'une difficulté. La difficulté, c'est que Charles de Gaulle, donc né en 1890 à Lille, si j'ai bonne mémoire, n'avait pas la réputation ni la formation caractéristique d'un officier colonial, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, rappelons en effet que le futur général de Gaulle a passé l'essentiel de sa carrière en Europe. Bon, il est allé à l'Est jusqu'à Varsovie, si, en 1920, si j'ai bonne mémoire, mais outre-mer, dans les pays musulmans, il n'y est allé qu'une seule fois, donc en Syrie et au Liban, entre 1929 et 1931. Et là, on a remarqué, ou en tout cas beaucoup plus tard, un discours de distribution des prix qu'il avait prononcé, je crois, devant les élèves d'un collège à Beyrouth, c'est ça, dans lequel il exhortait donc ces jeunes à préparer donc l'indépendance qui était l'avenir de leur pays. Et à partir de là, évidemment, il était tentant de dire « Ah ah, de Gaulle était effectivement un précurseur de la décolonisation ». Mais en fait, ça ne prouve rien. Enfin, c'est pas forcément faux, mais ça ne prouve strictement rien parce que, justement, le statut du Liban et de la Syrie n'était pas un statut de colonie, c'est-à-dire de dépendance totale envers la France. C'était un statut de mandat créé par la Société des Nations et encore un mandat de type A, c'est-à-dire mandat créé dans le but de préparer les populations concernées à une indépendance rapide. Et les autorités françaises avaient dû à plusieurs reprises donner des signes de commencement d'une telle politique, même s'ils n'avaient jamais osé aller rapidement jusqu'au bout. Donc on ne peut pas être certain que de Gaulle était un décolonisateur dans l'âme dès 1929 ou 1931. Et quand nous regardons donc la suite de la carrière, eh bien nous voyons que la question de l'avenir des colonies ne semble absolument pas faire partie de son activité jusqu'à 1940, dirons-nous. En effet, 1940, c'est bien sûr la date de l'invasion allemande victorieuse, de l'armistice signé par le maréchal Pétain, et donc à partir de là, eh bien, brusquement, l'empire colonial français devient, pour de Gaulle, qui veut incarner la résistance française, eh bien, un enjeu capital, car seul l'empire colonial français permettrait à la France de rester dans la guerre, à condition, bien sûr, de supposer que la Méditerranée traverse la France comme la Seine traverse Paris. Donc, de Gaulle, dès ce moment, rêve d'installer un gouvernement provisoire, enfin, le gouvernement légitime de la France, à Alger. C'est ce qu'il a proposé en 1940, et c'est la solution qui a été écartée par les partisans de l'armistice. Mais donc, à partir de là, la France, enfin, en tout cas, ceux qui en restent, se divise entre, d'une part, le gouvernement de Vichy, qui maintient son autorité sur l'Afrique du Nord et sur une partie de l'Afrique noire, pendant que le général de Gaulle, lui, installé à Londres, s'efforce de rassembler le plus possible de territoires coloniaux et d'y exercer lui-même la souveraineté de la France, enfin, la France qui refuse la défaite. Et à partir de là, il y a en réalité une guerre civile entre deux Frances et une division de l'Empire colonial en deux. Et c'est pourquoi c'est seulement au début juin 1943 donc plus de 6 mois après le débarquement anglo-américain en Afrique du Nord, que le général de Gaulle pourra établir donc le Comité français de libération nationale à Alger, donc Comité français de libération nationale que de Gaulle co-préside au début avec le général Giraud. Bon, alors je ne vais pas raconter tous les détails qui sont tous plus ou moins connus, mais l'important c'est bien que jusque-là, de Gaulle n'a jamais eu l'occasion de mettre les pieds en Algérie, et c'est vraiment une exception, car si on compare la plupart des chefs militaires de sa génération ou des générations suivantes qui ont participé à la Deuxième Guerre mondiale, que ce soit donc le futur maréchal Juin, son camarade de Saint-Cyr, et qui était originaire de Beaune, donc que ce soit également le général Delattre de Tassigny, que ce soit le général Leclerc, donc qui lui a suivi de Gaulle, que ce soit aussi le général Massue, autre ancien de la France libre, ou le général Salan, qui lui n'était pas vraiment gaulliste, mais qui avait quand même participé au combat pour la libération de la France à partir de l'Algérie, eh bien, ils avaient tous un passé colonial assez important. Alors, il y a néanmoins un personnage qu'il faut mentionner, parce qu'il a peut-être apporté au général l'expérience coloniale qui lui manquait, c'était le général Catroux. Le général Catroux, donc, qui était le plus ancien et le plus haut gradé des officiers supérieurs qui avaient rejoint de Gaulle en 1940, après avoir été gouverneur général de l'Indochine, destitué par Vichy, mais qui était aussi une vieille connaissance du général de Gaulle, car il s'était connu dans un camp de prisonniers allemand en 1916, et ils avaient pu s'apprécier. Or, le général Catroux, lui, avait une expérience coloniale considérable, puisque non seulement il avait un frère colon en Oranie, mais également, il avait participé un moment à la conquête du Maroc, sous les ordres...
Raymond d'abord, et puis ensuite...
Bon, et également, au Maroc, avec Lyautey. Donc, il y avait là un homme qui était aussi, comme le général de Gaulle, un général très intellectuel. Enfin, on dit qu'il y en a peu dans l'armée, en tout cas, il y avait au moins ces deux-là à l'époque. Enfin, je pense qu'il y avait quand même d'autres. Mais on peut penser, enfin, en tout cas, on peut supposer que cela a contribué à donner une culture, enfin, coloniale, je ne sais pas, mais en tout cas, une culture en matière de colonisation considérée autrement que d'une manière étroitement égoïste. Cependant, quand nous regardons toujours les faits, eh bien, nous nous apercevons que, du début à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le général de Gaulle n'a jamais eu une politique de décolonisation. Certes, il a favorisé la définition de politique coloniale nouvelle, tendant davantage à la promotion des populations indigènes, en particulier en Algérie. Et c'est là qu'il faut quand même que je vous donne des citations peu connues mais très importantes et qui m'ont été signalées d'abord par mon maître Charles-Robert Ageron. Donc, il s'agit de la politique coloniale définie par le général Catroux, précisément. Catroux, que de Gaulle avait nommé donc à son arrivée à Alger en juin 1943, non seulement gouverneur général de l'Algérie, mais aussi commissaire d'État chargé de la politique musulmane. C'est-à-dire qu'il y avait pour la première fois un département ministériel chargé de la définition d'une politique musulmane de la France, et non seulement en Algérie, mais aussi dans les protectorats et en Syrie et au Liban. Or, en Syrie, enfin justement, le général Catroux avait été chargé par de Gaulle dès 1940 de s'installer au Caire pour surveiller ce qui se passait dans tout l'Orient et en Syrie et au Liban. Et quand les Anglais ont chassé donc les troupes vichistes de Syrie et du Liban en 1941, eh bien, le général Catroux était chargé de rétablir une autorité française, donc dans le cadre des mandats de la Société des Nations. Alors certes, le général de Gaulle et le général Catroux avaient bien sûr dû promettre l'indépendance à ces deux pays, mais ce n'était pas la première fois, et ils espéraient bien quand même maintenir la présence française et ajourner le transfert de souveraineté jusqu'après la fin de la guerre. Pourquoi cela? Eh bien parce que de Gaulle ne voulait évidemment pas brader l'Empire. Il voulait rendre à la France libérée et victorieuse de l'Allemagne en 1945, tout ce que la France possédait en 1939. Et c'est pourquoi on ne peut pas parler à proprement parler d'une politique de décolonisation par De Gaulle avant 1945. Et pourtant, donc je reviens au général Catroux. Le général Catroux s'était heurté très vite au manifeste du peuple algérien, donc ce programme revendicatif soutenu par Ferhat Abbas et la plupart des élus musulmans, qui disait « L'heure est passée où un musulman algérien demandera autre chose que d'être un Algérien musulman. Depuis l'abrogation du décret Crémieux surtout, la nationalité et la citoyenneté algérienne lui offrent plus de sécurité et donnent une plus claire et plus logique solution du problème de son évolution et de son émancipation. » Donc le régime de Vichy prolongé par le général Giraud avait dû supporter cette audace, mais donc Catroux et De Gaulle, une fois installés, ne pouvaient pas l'admettre, et ils ont forcé les élus musulmans à désavouer Ferhat Abbas et envoyer celui-ci et un autre meneur au Sahara pour les faire réfléchir pendant quelques mois, avant de les rappeler à Alger. Toujours est-il que le général Catroux avait convaincu De Gaulle que les plans de réforme envisagés jusque-là ne suffiraient pas et qu'il fallait définir une nouvelle politique algérienne, en tout cas une politique algérienne d'une audace sans précédent. En effet, le comité a nommé, donc en décembre 1943, une commission des réformes musulmanes chargée d'élaborer un programme complet, non seulement de réformes politiques visant à satisfaire tous les projets inaboutis, et notamment le projet Blum-Violette de 1936, mais également un programme de réformes économiques et sociales visant à élever le plus rapidement possible le niveau de vie de tous les habitants de l'Algérie à l'égal du niveau de vie des Français d'Algérie et des Français de France. Or, cela est un fait très important qui pourtant est resté à peu près totalement inconnu. Je ne sais pas si d'autres historiens que moi en ont parlé dans leurs livres. Bon, mais enfin, je veux pas revendiquer un quelconque mérite pour cela, car ce programme, eh bien, était très facile à connaître, car l'activité de la commission pendant plus de 6 mois a donné lieu non seulement à la réalisation de documents d'archives, mais aussi à l'impression de ces documents, donc en 2 volumes, donc qui retracent toute l'activité de la Commission des réformes musulmanes de 1944, dans le moindre détail. Bon. Et cependant, le général Catroux avait aussi prévenu le général de Gaulle dès le 10 décembre 1943 que, je cite, « la politique d'assimilation et d'intégration » devait être poursuivi en Algérie si l'on ne voulait pas arriver à un conflit qui nous obligerait à donner ultérieurement à ce pays un statut de dominion ou qui aboutirait à une situation analogue à celle qui prévaut actuellement au Liban. Et de nouveau, en février 1944, donc au début de l'examen des premières décisions politiques donc, qui ont donné lieu à l'ordonnance du 7 mars 1944, donc, en février 1944, Catroux écrivait que ce programme de réforme était la dernière chance de la politique d'assimilation ou d'intégration et que s'il échouait, il faudrait changer de politique. Je cite, « Si la nation musulmane algérienne, prenant conscience d'elle-même, demandait dans l'avenir à se constituer, le gouvernement du moment aurait à reconsidérer sa politique puisque la politique d'assimilation aurait échoué. » Et il devrait vraisemblablement accorder à l'Algérie un statut d'autonomie politique apte à faire vivre ensemble les 2 fractions de la population, l'algérienne et la française. Le problème à résoudre s'apparenterait dès lors à celui qui se pose au Liban. Et le Liban, eh bien, Catroux était bien placé pour savoir que les choses ne s'y passaient pas bien, puisqu'il avait dû intervenir en 1943 pour résoudre une crise très grave entre le gouvernement libanais et le représentant de la France. Et quelques mois après, donc en mai-juin 1945, il y a eu de nouveau une crise très grave entre la France et la Syrie, puisque les forces syriennes ont attaqué les forces françaises qui ont riposté, bombardé Damas. Et à ce moment-là, les Anglais qui restaient militairement présents en Syrie et au Liban sont intervenus en envoyant un ultimatum aux armées françaises pour qu'elles rentrent dans leurs casernes. Et à ce moment-là, De Gaulle a dit, Nous n'avons pas actuellement la force nécessaire pour vous faire la guerre, mais cela ne sera pas oublié. Donc, est-ce que l'on peut dire qu'en 1945, De Gaulle était l'homme de la décolonisation? Eh bien, de nouveau, ça ne paraît pas évident. Alors, jusqu'à quand? Eh bien, en fait, on cherche en vain des preuves d'une volonté de décolonisation de la part du général De Gaulle de 1945 à 1954. Alors, il y en a pourtant une. Il y en a pourtant une. Alors, il faut que je la retrouve. C'est que, au moment des discussions à l'intérieur du CFLN en 1943, André Philippe, qui était commissaire à je ne sais plus très bien quoi, a demandé à De Gaulle s'il ne faudrait pas aller plus loin que l'ordonnance du 7 mars 1944. Et De Gaulle lui a répondu « L'autonomie, allons Philippe, vous savez bien que tout cela finira par l'indépendance. » Et donc c'est le premier indice qui paraît sérieux que nous puissions invoquer. Toujours est-il que, ensuite, eh bien, on ne trouve pas de traces claires d'une volonté de décolonisation gaullienne. Alors, d'une part, le programme de réforme politique amorcé par l'ordonnance du 7 mars 1944 a été discuté par toutes les assemblées constituantes, et finalement, c'est seulement la nouvelle Assemblée nationale élue en 1946 qui a été amenée à donner une forme provisoire aux réformes algériennes par le statut de l'Algérie de septembre 1947. D'autre part, sur le plan des réformes économiques et sociales, le programme a commencé à entrer en vigueur, mais avec beaucoup de retard, en particulier parce que le plan de réforme visant à élever le niveau de vie de toutes les populations de l'Algérie supposait pour son financement des moyens financiers considérables et que le budget autonome de l'Algérie ne permettait pas de fournir. Il était clair dès 1944 que la participation du budget de la métropole au financement du plan de réforme était indispensable. Or, c'est seulement en 1948 que le gouvernement de l'époque a concrétisé cet engagement, enfin l'engagement qu'il venait de prendre, d'accorder une contribution métropolitaine au financement du plan de progrès social de l'Algérie. Mais cette contribution était toujours insuffisante, à la fois parce que les besoins étaient toujours sous-estimés, étant donné que chaque fois, par exemple, que l'on créait des écoles, les dépenses nécessaires étaient introduites dans le budget extraordinaire de l'Algérie, mais une fois cette école créée, il fallait la financer en payant l'entretien des bâtiments, en payant les maîtres, tous les ans. Autrement dit, les dépenses du budget ordinaire étaient aussi forcément accrues par le progrès de ce plan. Et le résultat, eh bien, c'est que le budget de l'Algérie était de plus en plus incapable d'assurer la réalisation de ce plan. Et c'est pourquoi, donc, en 1954, le gouverneur général Roger Léonard s'est décidé à demander la remise à plat des relations financières entre l'Algérie et la métropole, et il a obtenu la création d'une commission, la commission Maspétiol, qui a rendu son rapport quelques mois après. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu d'un côté, enfin, en métropole, une grande indifférence à ce qui se passait en Algérie, en particulier à partir de 1948, quand l'ordre a semblé rétabli par la répression du mouvement nationaliste, et puis aussi, d'autre part, une grande ignorance de la grande majorité des hommes politiques métropolitains, sauf quelques-uns qui étaient passés par Alger, comme le président Vincent Auriol pendant la guerre, et qui n'avaient pas oublié qu'il y avait ce grand projet d'accélération du progrès de l'Algérie. Donc, nous en revenons à De Gaulle. Eh bien, qu'a-t-il fait, qu'a-t-il dit, en tout cas, qu'a-t-il pensé quand la guerre éclate de nouveau, enfin la guerre d'indépendance, à partir de novembre 1954. Alors, en 1955, d'abord, il faut rappeler qu'en février 1955, Jacques Soustelle, homme politique qui avait été longtemps très proche de De Gaulle, a accepté le poste de gouverneur général de l'Algérie qui lui a été proposé par donc le gouvernement de Pierre Mendès France, dont François Mitterrand était le ministre de l'Intérieur. et qu'il avait l'un l'autre une claire notion de la nécessité de relancer ce programme de réforme qui était en principe celui de la France depuis 10 ans. Et puis, cette politique a reçu dès 1955 le nom de politique d'intégration qui a été illustrée en particulier par Jacques Soustelle qui en a fait une profonde conviction de sa part, même si le mot « politique d'intégration » semble dû à son prédécesseur, Roger Léonard. Enfin, c'est lui qui l'a adopté. Mais déjà, donc 10 ans plus tôt, le général Catroux parlait, lui, de politique d'assimilation ou d'intégration. Bon, alors, je reviens à 1955. Au moment où Pierre Mendès France lui a proposé le poste de gouverneur général de l'Algérie, Jacques Soustelle a demandé au général de Gaulle s'il acceptait qu'il réponde favorablement. Et le général de Gaulle lui a donné son accord. Mais, à peu près au même moment ou quelques semaines plus tard, Edmond Michelet, reçu par le général de Gaulle, s'entend dire « L'Algérie, perdue, finie !» Et donc, dès ce moment, dit Michelet, de Gaulle lui annonçait qu'il n'était plus possible de sauver l'Algérie française. Et encore quelques mois, d'autres personnes ont eu la même expérience, et en particulier, c'était je crois en mai 55, Louis Ternoir, celui-là même qui avait succédé à Jacques Soustelle à la direction du RPF, le Rassemblement du Peuple Français, eh bien Louis Ternoir s'est entendu dire que la France ne pouvait absolument plus continuer la même politique, et l'Algérie française était perdue. Il y a des imbéciles qui ne veulent pas le comprendre. On se demande vraiment à qui de Gaulle pouvait bien penser. Et avec le recul du temps, la réponse paraît assez évidente. Enfin, même si c'était pas gentil pour Jacques Soustelle, c'est évidemment à lui qu'il pensait. Toujours est-il que l'on constate qu'à partir de ce moment, Jacques Soustelle a été victime d'une duplicité consciente du général de Gaulle qui a fait tout ce qu'il a pu pour dissiper sa méfiance en lui donnant de fausses indications sur sa volonté de poursuivre la politique d'intégration. Mais en réalité, de Gaulle avait exprimé le fond de sa pensée d'une manière sibylline, mais pourtant très claire a posteriori, dans sa dernière conférence de presse qui a eu lieu à la fin juin 1955, le 30 juin 1955. Il avait recommandé de substituer partout l'association à la domination. Une association définie soit comme un lien de nature fédérale entre États, entre la Tunisie ou le Maroc et la France, soit comme une intégration dans une communauté plus large que la France, cas de l'Algérie. Or, l'association était, selon les experts en politique coloniale de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, une politique opposée par son réalisme aux illusions de l'assimilation. Et donc, en réalité, quand de Gaulle employait pour la dernière fois le mot « intégration », il pensait à une intégration dans une communauté plus large que la France, et non pas dans la France elle-même. Et cela posait de nouveau le problème de la différence entre la France des Français, en tout cas la France dont la population était entièrement composée de citoyens français, et les territoires d'outre-mer. Or, de Gaulle avait parlé d'association, il avait proposé d'associer la France dans une communauté de forme fédérale aux autres territoires d'outre-mer depuis la conférence coloniale de Brazzaville, janvier-février 1944, et depuis les débats constitutionnels de 1946. Donc, quand on dissèque le texte de cette déclaration, on s'aperçoit qu'il ne range plus les départements algériens dans la même catégorie que les départements métropolitains. Ainsi, on peut dire que de Gaulle aurait dû être compris par tous, mais le fait est qu'il n'a pas été compris par tous et qu'il a fait ce qu'il a pu pour maintenir l'équivoque. Alors, donc, pendant ces années, Jacques Soustelle s'est engagé à fond dans la voie de l'intégration. Il a mené une polémique assez vive durant l'été 1957, l'opposant à Raymond Aron, qui jugeait que l'indépendance de l'Algérie était nécessaire parce que l'intégration était impossible. Donc Jacques Soustelle lui a répondu par une autre brochure extrêmement sévère. Et puis Edmond Michelet s'est efforcé d'arbitrer, mais en tapant néanmoins aussi en partie sur le dos de Raymond Aron, alors qu'en réalité, Raymond Aron a su que De Gaulle, en privé, lui avait donné raison contre Jacques Soustelle. Toujours est-il que, alarmé par son nouvel ami Alain de Sérigny, Jacques Soustelle est allé voir le général De Gaulle en mars 1958 pour lui demander ce qu'il pensait vraiment de la politique à mener en Algérie. Et il en a tiré la conclusion que De Gaulle ne croyait pas à l'intégration parce qu'il n'était pas sûr que tous les musulmans la souhaitent, mais il ferait de son mieux. Donc, quand on lit les propos de Jacques Soustelle, on s'aperçoit que De Gaulle l'avait bel et bien trompé, justement, pour obtenir que Soustelle lui maintienne son soutien, et que donc quelques semaines plus tard, donc à Alger, en mai 58, au moment où le Parti socialiste avait décidé de ne pas participer au gouvernement Pflimlin, donc le directeur de l'Écho d'Alger, Alain de Sérigny, a publié un éditorial intitulé « Parlez, parlez vite, mon général, vos paroles seront une action », ce qui faisait allusion à cette conversation entre Soustelle et De Gaulle, qui disait qu'il ne voulait pas parler parce que, de toute façon, ça ne servirait à rien. Et donc, eh bien, la suite des événements, bon, je ne vais pas la raconter, bien entendu, simplement, Soustelle, lui, s'est embarqué pour Alger dès qu'il a pu, après le 13 mai, après, donc, successivement, le général Massu, puis le général Salan, a fait appel au général De Gaulle. Donc, Soustelle est arrivé à ce moment-là, il a connu les 15 jours les plus exaltants de sa vie, et puis, eh bien, De Gaulle est arrivé, et à partir de là, eh bien, Jacques Soustelle a entamé, je ne dirais pas son chemin de croix, mais sa descente en enfer. En moins de 2 ans, il a perdu toutes ses illusions, il a compris qu'il avait été trompé, et que De Gaulle allait faire la politique qu'il jugeait la pire de toutes. Et donc, je ne vais pas raconter la suite de ces événements, simplement pour reprendre le lien avec ce qui a été dit, je voudrais vous lire les principaux passages, enfin pas tous, d'un discours que le général de Gaulle a prononcé le 10 mai 1961, pas très loin d'ici, si j'ai bien compris, donc dans les murs de l'hôtel des Invalides, à l'occasion du transfert du corps du maréchal Lyautey, que le roi du Maroc avait jugé indésirable, en tout cas il préférait ne pas le laisser là où il avait été inhumé en 1934, et donc le 10 mai 1961, le général de Gaulle a présidé la cérémonie de rétablissement, disons, des cendres du maréchal Lyautey en terre française aux Invalides. Et donc il a lu, rassurez-vous, je n'ai pas plus d'une page, « C'est en terre française, à Paris, aux Invalides, que le maréchal Lyautey va poursuivre son dernier sommeil. Pour lui, il paraît donc sembler que tout soit définitif. Il n'en est rien, cependant. Si noble que puisse être le décor offert finalement à ses cendres, l'esprit et les actes de Lyautey ne sauraient être ensevelis. Dans un monde où tout change, la flamme qu'il anime est vivante, l'exemple qu'il donna reste bon, la leçon qu'il a léguée demeure féconde. 27 années après sa mort, années qui virent se transformer de fond en comble les conditions de son époque, voici qu'il nous apparaît comme un homme du présent. Car ce que fit ce grand romantique de la pensée et de l'action, par l'empreinte d'une œuvre classique, c'est-à-dire valable en tout cas et en tout temps, parce que ce fut une œuvre immense. Et donc un autre extrait. Politique, ce n'est pas du tout à l'abaissement d'un empire et à la domination d'un pays qu'il tendit son action de résident général de France au Maroc, mais au contraire à la consolidation d'un État souverain, au développement d'une élite et d'un peuple pour les aider à devenir capables de porter un jour les responsabilités de l'indépendance et de la civilisation. Et un peu plus loin, De Gaulle fait 2 citations du maréchal Lyautey sur l'avenir du Maroc et sur celui de l'Afrique du Nord, datées de 1920. « Il y a lieu de prévoir, disait-il, qu'en un temps plus ou moins lointain, l'Afrique du Nord, évoluée, vivant de sa vie autonome, se détachera de la métropole. Il faut qu'à ce moment-là, ajoutait-il, cette séparation se fasse sans douleur et que les Africains continuent toujours de se tourner vers la France. » Et donc la dernière phrase de ce discours, c'était « En vérité, le maréchal Lyautey n'a pas fini de servir la France. » Et 10 jours après, le 20 mai, la première conférence d'Évian entre les délégués français et ceux du FLN commençait. Voilà. Thank you.